c'est bon.
C'est magnifique. Alors, je vais simplement te bénir. Oui, Seigneur Jésus, merci de bénir Valérie. Je te remercie parce que tu lui as donné un cœur sensible à toi. Et je te remercie parce que les paroles qui vont sortir de sa bouche, c'est des paroles pour nous édifier, pour nous encourager à grandir avec toi. Alors que vraiment, le Saint-Esprit, tu puisses visiter ma sœur maintenant. Amen.
Amen. Merci. Voilà, alors c'est vraiment un plaisir de nouveau d'entendre la parole de Dieu ensemble, de partager avec vous. Dans notre pays, ces deux dernières semaines ont été marquées quand même par une décision politique importante, historique même, hein, qui engage toute une génération, puisque d'ici 2034, nous sortirons du nucléaire, nous a dit Madame la Présidente Doris Leuthard. Donc c'est pas rien, c'est vraiment important. Pardon ? Calmirait, ouais, excusez. Ploup, excusez. Alors bien sûr que... Alors bien sûr qu'avec ça, certains sont très contents parce que ça fait des décennies et des décennies qu'ils luttent pour ce sujet, ils ont explosé de joie. Et puis d'autres sont nettement plus sceptiques, ben, c'est comme ça, c'est la politique. Ce qui est sûr, mais alors ce qui est sûr, c'est qu'il faudra trouver des nouvelles solutions, entre autres, développer ce qu'on appelle des énergies renouvelables. L'hydraulique, le solaire, les éoliennes. Et aujourd'hui, ben, j'aimerais parler du Saint-Esprit comme une énergie renouvelable, comme d'une puissance appelée à se renouveler en nous. Oui, le Saint-Esprit, c'est une ressource inépuisable qui est non seulement pas nocive pour la création, qui ne produit pas de déchets, mais qui est juste indispensable à nos vies. Une des énergies qu'a le vent en poupe, c'est l'énergie éolienne. Les installations éoliennes utilisent le vent pour faire tourner les hélices et puis l'énergie mécanique est transformée en énergie électrique. Une image fréquemment employée dans la Bible pour parler de l'esprit, c'est le vent, le souffle. Un souffle qui fait vivre et qui rend même la vie possible lorsqu'on se trouve sous l'eau, submergé par des situations difficiles. Une autre image, je trouve toujours dans le même ordre, qui parle bien de l'esprit, c'est la respiration. La respiration, ce n'est pas une alternative, ce n'est pas une option, mais c'est juste indispensable pour vivre. Chacun sait que si on ne respire plus pendant quelques minutes, la vie est rapidement mise en danger. En hébreu, on a un mot qui parle vraiment bien de l'esprit dans ce sens-là, c'est le mot ruach, très connu en nos chants, hein, ruach. C'est le vent, le souffle, c'est ce souffle que Dieu a mis en nous, qu'il a soufflé sur nous. Et si Dieu reprend la ruach, les hommes meurent. Et pour aujourd'hui, j'ai craqué, mais vraiment craqué pour un texte biblique qui parle de la ruach, de l'esprit, comme d'un souffle qui fait vivre, d'un souffle qui relève. C'est un texte très connu dans l'Ancien Testament. Et plus qu'un texte, parce que bien sûr, pour nous, en tant que chrétien, la Bible, ce n'est pas juste un magnifique texte biblique, mais c'est la parole de Dieu qui nous est adressée. Et je crois qu'elle nous redit vraiment, avec force ce matin, que quand c'est à bout de souffle autour de nous, quand il y a des aspects désespérés, fichus, abîmés, en pièces, l'œuvre, le souffle de Dieu fait une œuvre de recréation. Les auditeurs d'Ézéchiel dont nous allons nous inspirer ce matin vivent dans un contexte extrêmement difficile puisqu'ils sont déportés en Babylonie. Ils ne sont pas chez eux, ils sont immigrés, ce n'est pas eux qui font la loi. Ils sont loin de leur temple et pour eux, ce n'est pas rien. C'est vraiment être loin de la présence de Dieu. Donc, ils sont vraiment dans une situation difficile de désespoir. Leur seule idée, c'est de rentrer au plus vite chez eux, à Jérusalem, dans leur temple. Mais voilà, ils apprennent que le temple est détruit et vraiment, ils ne voient, voient plus leur avenir. Alors voilà, comme ça, juste pour dire le contexte dans lequel on arrive avec ce texte vraiment très très bon. Ézéchiel 37, 1 à 14, la vision des ossements, très très connue. « La main du Seigneur fut sur moi. » Il me fit sortir par l'Esprit du Seigneur et me déposa au milieu de la vallée. Elle était pleine d'ossements. Il me fait circuler parmi eux en tous sens. Ils étaient extrêmement nombreux à la surface de la vallée. Ils étaient tout à fait desséchés. Il me dit, « Fils d'homme, ces ossements peuvent-ils revivre ?» Je dis, « Seigneur Dieu, c'est toi qui le sais. » Il me dit, prononce un oracle contre ces ossements. Dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur Dieu à ces ossements. Je vais faire venir en vous un souffle pour que vous viviez. Je mettrai sur vous des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, j'étendrai sur vous de la peau. Je mettrai en vous un souffle et vous vivrez. Alors, vous connaîtrez que je suis le Seigneur. Je prononçai l'oracle comme j'en avais reçu l'ordre. Il y eut un bruit pendant que je prononçais l'oracle et un mouvement se produisit. Les ossements se rapprochèrent les uns des autres. Je regardais, voici qu'il y avait sur eux des nerfs. De la chair croissait et il étendit de la peau par-dessus. Mais il n'y avait pas de souffle en eux. Il me dit, prononce un oracle sur le souffle. Prononce un oracle, fils d'homme. Dis au souffle, ainsi parle le Seigneur Dieu. Souffle, viens des quatre points cardinaux, souffle sur ces morts et ils vivront. Je prononçais l'oracle comme j'en avais reçu l'ordre. Le souffle entra en eux et ils vécurent. Ils se tinrent debout. C'était une immense armée. Et puis là vient le commentaire de la vision. Il me dit, « Fils d'homme, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. Ils disent, nos ossements sont desséchés, notre espérance a disparu, nous sommes en pièces. C'est pourquoi prononce un oracle et dis-leur, ainsi parle le Seigneur Dieu, je vais ouvrir vos tombeaux, je vous ferai remontez de vos tombeaux, ô mon peuple, je vous ramènerai sur le sol d'Israël. Vous connaîtrez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux. Je vous ferai remonter de vos tombeaux, ô mon peuple. Je mettrai mon souffle en vous pour que vous viviez. Je vous établirai sur votre sol. Alors vous connaîtrez que c'est moi le Seigneur qui parle. Et accompli, oracle du Seigneur. Nos os sont desséchés, crient les Israélites. Alors, qu'est-ce qu'ils disent quand nos os sont desséchés? Nous, ce n'est pas tellement une expression qu'on emploie comme ça, mais dans la langue hébraïque, c'est vrai qu'ils aiment bien parler avec des images. Alors quand ils disent « nos os sont desséchés », ils disent franchement qu'ils n'en peuvent plus, qu'ils n'ont plus d'énergie, qu'ils sont découragés, puis qu'ils ne voient plus leur chemin. Et puis du côté d'Ézéchiel, lui, il a une vision, alors pour le moins macabre. Imaginez une vallée jonchée d'os. Et puis comme si ça ne suffisait pas, Le Seigneur ne demande pas à Ézéchiel juste de prononcer une vision comme ça depuis son temps de prière chez lui, mais non, il demande encore de s'impliquer et puis de circuler à travers ses ossements pour que dans le concret, il puisse prendre vraiment conscience de la désolation. Il y a beaucoup d'os et ils sont vraiment complètement desséchés. Vraiment, il n'y a plus de vie. Et puis quelque chose qui a dû être aussi immonde pour lui, c'est qu'en tant qu'Israélite, on sait que c'était tellement important d'être enterré. Que les os soient comme ça à la surface du sol, c'était horrible. Alors bien sûr, pour nous, les os desséchés, ça peut, c'est donc l'image du désespoir, ça peut être beaucoup, beaucoup de choses. Je ne sais pas s'il y a vraiment besoin de donner beaucoup d'exemples, mais en tout cas, c'est tout ce qui sape mon espérance. Toutes ces pensées qui sont dans ma tête et puis qui me disent que de toute façon, cette situation ne changera jamais, que de toute façon, j'y arriverai jamais, que telle ou telle épreuve, ben, j'y arriverai jamais. Ou que il y a quelqu'un qui me disait une fois, mais ça ne sert à rien de prier, parce que de toute façon, ça ne changera pas. Ou bien ça peut être pas que sur le plan individuel, mais sur le plan de la communauté, de l'Église, certains aspects où on se dit, ben non, ça ne changera vraiment jamais. En fait, c'est tout ce qu'on fige. Et pourtant, dans ces situations bien réelles, Ézéchiel, il est dans la réalité, dans le concret, c'est sans vie, mais il a quelque chose qui va être son salut, c'est qu'il va garder une ouverture. Il va rester ouvert à un autre, à une autre idée que ce qu'il croit et que ce qu'il voit. Et son salut, c'est qu'il va garder l'ouïe à la voix de Dieu. Et le prophète a l'honneur d'avoir une question de la part de Dieu. Fils d'homme, crois-tu que ces ossements revivront ? Et si le Seigneur te posait à toi cette question ce matin, crois-tu que cette situation qui est figée, en tout cas dans ta tête, crois-tu qu'elle peut changer, qu'elle peut évoluer, qu'elle peut être visitée par le Seigneur, qu'elle peut être illuminée par son esprit ? Crois-tu ? Que répondrais-tu ? Ézéchiel, il a passé les deux tiers de son ministère à dénoncer les péchés de son peuple, des peuples voisins. C'est un livre difficile à lire, il y a beaucoup de paroles de jugement. Et pourtant, lui, qui a une vision lucide du cœur de l'homme, clairvoyante, eh ben lui n'enferme pourtant ni Dieu ni son peuple. Avec cette réponse que je trouve vraiment magnifique, toi seul, Seigneur, tu le sais. C'est vrai, j'ai passé pas mal de temps juste sur cette réponse. Elle m'émeut parce que je trouve qu'elle dit deux choses fondamentales. Elle dit l'impuissance des hommes devant ces ossements desséchés, devant les situations extrêmement difficiles qu'on peut vivre, la mort. Ben, elle dit l'impuissance, ben non, on ne peut rien. Mais en même temps, elle dit que pour Dieu, l'impossibilité reste possibilité. Toi seul, Seigneur, tu le sais. Et si je prenais le risque de répondre à Dieu, ben Dieu, c'est toi qui sais. C'est toi qui sais si cette situation peut évoluer, peut changer, peut trouver un nouveau souffle, peut être éclairée. C'est toi qui le sais. Et au désespoir du peuple, répond l'espoir de Dieu et peut-être qu'au désespoir de ta vie ou de certains aspects de ta vie, répond l'espoir de Dieu. Au moment où le prophète va avoir cette réponse exemplaire, la parole et l'esprit vont agir conjointement. Souvent, nous, on dit la parole c'est là, l'esprit c'est là, on sépare Mais là, force est de constater que parole et esprit agissent conjointement. La parole de la Genèse à l'Apocalypse est dite dans ce souffle de l'esprit. Et pour dire cette parole, pour agir, Dieu va utiliser un fils d'homme. Fils d'homme, c'est une expression qui vient souvent dans le livre d'Ézéchiel, qui veut simplement dire, humain parmi les humains. Toi, Ézéchiel, humain parmi les humains, soumis aux mêmes fragilités que les autres, il va être fortement impliqué. Il va lui-même devoir s'adresser à ses ossements desséchés. Les ossements desséchés, c'est, on l'a vu dans l'interprétation, c'est la maison d'Israël. Il va devoir se lever, il va devoir leur adresser la parole, il va devoir parler à l'esprit, il va être vraiment, vraiment impliqué. Et je crois que ça nous redit que Dieu nous veut vraiment collaborateurs de son œuvre et qu'aujourd'hui, chaque chrétien est appelé à porter cette parole créatrice. Et là, je rejoins le discours de Pierre à Pentecôte qui dit « Il se fera dans ces derniers jours, dit le Seigneur, que je répandrai mon esprit sur toute chair, alors vos fils et vos filles prophétiseront. » Et c'est ma prière que chacun de nous soyons prophètes, c'est-à-dire porteurs de la parole de vie, une parole qui peut être incarnée, porteur d'un geste, d'une attitude, d'un comportement qui ouvre des portes là où elles semblent totalement verrouillées. Et puis, après tout ça, après qu'Ézéchiel se soit mis vraiment en route, je dirais qu'il y a comme dans ce texte, mais plus que dans ce texte, à admirer l'œuvre, le travail de Dieu qui se fait comme ça par étapes. On le voit très bien là, c'est d'abord quand l'Esprit de Dieu agit, les eaux se rapprochent l'un de l'autre, comme si quand l'Esprit de Dieu agissait, il faisait un travail d'unité. Et puis, il y a des nerfs qui poussent, comme pour nous dire qu'une nouvelle sensibilité à l'Esprit est donnée. C'est beau. Et après, de la chair, de la peau, pour recouvrir ces squelettes et en faire des corps. Et qu'est-ce que nous dit l'apôtre Paul ? Que les corps, c'est le temple, c'est le lieu de l'Esprit-Saint. Et puis finalement, l'animation de ces corps par l'Esprit. Donc toutes ces étapes. Et plusieurs théologiens ont vu, ils ont fait un parallèle, là c'est un récit de recréation, mais plusieurs ont fait un parallèle avec Genèse 2, le récit de la création, où Dieu prend de la poussière du sol et puis souffle dans les narines, en deux étapes comme ça. Et il me semble que ce que ça nous dit, mais ça nous dit que Dieu veut accomplir son œuvre en nous par étapes successives. Nous, on lit ce texte, ça va à toute vitesse, bien sûr en français c'est rapide, vite lu, mais il me semble que c'est pas ça. Et il me semble que les aînés aussi sont là pour témoigner, pour nous dire que l'action de Dieu dans nos vies et puis dans l'Église, elle ne se fait pas d'un coup de baguette magique, mais que ça se fait comme ça par étapes successives et dans le temps. Et puis moi je suis jeune, alors souvent l'impatience m'atteint, j'aimerais que les choses aillent très très vite. Puis là je prends juste un tout petit exemple personnel, je suis assez pudique pour parler de moi-même, voilà. C'est une petite expérience spirituelle de pardon et de réconciliation. Il s'agit d'un conflit comme ça qui durait, je pense, pas loin de 10 ans, donc je trouve vraiment très très long. Et puis souvent, j'en ai fait un sujet de prière, j'en ai parlé avec des amis, avec d'autres, et puis j'avais vraiment envie que ça se règle, parce qu'avec le temps, c'est quoi ? C'est les blessures, c'est l'amertume qui vient, enfin, etc. Et puis, c'est que dernièrement que j'ai pu revoir, enfin, qu'on a pu se revoir, que tous les protagonistes de ce conflit ont pu se réunir, et puis qu'on a pu se parler, mais vraiment comme on n'avait pas encore pu se parler, et qu'on a pu vivre quelque chose de l'ordre de la réconciliation aussi, que de l'ordre de se dire bah, comment on va continuer ensemble. Et a posteriori, comme ça, je me dis, bah, quand on a eu toutes ces discussions, je me suis dit, bah, oui, on n'était pas prêts avant. Il a fallu attendre tout ce moment-là. Voilà, simplement un petit exemple. Et puis finalement, un dernier point, c'est je mettrai en vous un souffle et vous vivrez. Alors vous connaîtrez que je suis le Seigneur. Et si vous êtes familier de la lecture de la Bible, vous savez que c'est un refrain. Alors vous connaîtrez que je suis le Seigneur, ou vous reconnaîtrez que je suis le Seigneur, qui revient vraiment souvent dans la Bible. Et souvent, il est associé à une parole de jugement. Alors là, j'ai pris juste un exemple. Dans Ézéchiel, le pays d'Égypte deviendra un désert et une ruine, et l'on reconnaîtra que je suis le Seigneur. Souvent, c'est suite à une parole de jugement. Mais là, dans nos textes, c'est pas du tout ça. C'est quand vous verrez toute cette œuvre de récréation, vous reconnaîtrez que je suis Dieu, vous me connaîtrez. Vous ne saurez pas plein de choses sur moi, mais vous aurez expérimenté quelque chose avec moi de profond. Reconnaître que Dieu est Dieu dans ce texte, pour moi, c'est croire que Dieu a encore le pouvoir de créer et de recréer là où le mal, là où le péché a dévasté, a abîmé, a jeté le trouble. Pentecôte, bah, c'est la réalisation de cette prophétie pour nous, pour son Église. Le Christ est ressuscité, il a rejoint le Père, mais il ne nous laisse pas seuls. Et c'est son esprit qui est en nous pour que nous ayons encore l'énergie. L'énergie, ou si vous n'aimez pas l'énergie, la force, la puissance, de croire que Dieu peut agir là où tout semble perdu, abîmé, desséché, sans avenir. Son esprit est en nous pour que nous puissions rester à l'écoute de la parole de Dieu et ne pas rester enfermés dans des schémas qui nous disent que de toute façon, ça ne vaut pas la peine. Et puis finalement, de nous donner l'énergie de porter la parole de vie dans le langage des personnes que nous rencontrons. Ce n'est pas une petite affaire. J'ai été au CHUV juste 2 mois, mais j'ai rencontré presque des personnes qui ne vont pas à l'église, mais je me suis rendu compte comment il y a un décalage important. Par exemple, des gens me disaient, je leur disais, oui, bonjour, je suis aumônier, ils ne savaient pas ce que c'était un aumônier, ou même à quelqu'un, je lui disais, je suis pasteur. Ah, c'est quoi un pasteur? J'ai dit, ah, c'est la même chose que prêtre. Et puis tout d'un coup, il a compris. Donc, juste pour dire, ouais, on a bien besoin de l'esprit du Seigneur. Voilà, je laisse simplement ces points comme ça, je vous laisse prendre un temps pour méditer et puis simplement pour vous approprier, prendre pour vous ce qui est pour vous et d'écouter le Seigneur. On va faire un petit temps de silence, enfin avec un peu de piano, puis après on prendra un chant ensemble.